avouer n'est pas trahir. Je parle des sentiments. S'ils obtenaient de moi que je change de sentiment, que je cesse de t'aimer, là serait la vraie trahison.
Qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe, et une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». Cette émission a été préparée sous un regard noir et en combinaison bleue par Colomba Grossi, Marianne Chassor, Antoine Ravon et Lucie Tardy, avec Mydia Portis-Guérin à la réalisation cette semaine, Yanis Joudad à la prise de son aujourd'hui, et celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Faut-il vraiment penser aux autres? Eh bien c'est la question du philosophe Dominique Lecourt qui publie un essai sur l'égoïsme aux éditions Autrement.
Rendez-vous à 10h51. Troisième temps de notre série sur l'inégalité. Après Patrick Savidan qui est venu lundi se demander si nous voulons vraiment l'égalité économique. Car oui, la question se pose. Après Jean-Christophe Abramovici qui hier vous a dévoilé un Marquis de Sade subtil et philosophe, bien que prônant la domination de l'homme sur la femme. Et avant Jean Gaillon qui demain s'interrogera sur l'existence d'une loi du plus fort dans le darwinisme, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, sous le regard de Big Brother, celui qui va vous initier aux novlangues de 1984 de George Orwell et décrire le cauchemar d'une société uniformisée. Il s'agit de Frédéric Regard, professeur des universités qui enseigne la littérature anglaise contemporaine à la Sorbonne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Morning, Smith.
Parsons.
Heard the rumor?
Yeah. Good news, is it?
Oh, I should say so, yes. Choco rations going up.
Really?
Au courant des bruits?
Non, bonne nouvelle.
On dirait, oui. Les chocorations vont grimper.
Ah bon?
Oh, 25 grammes la semaine prochaine. Au fait, Smith, je suis à court de lames de rasoir, c'est idiot, mais... Vous n'en auriez pas une par hasard, vous?
Je regrette, frère, mais j'en suis à ma dernière.
Je voulais vous demander si vous n'auriez pas des lames de rasoir.
Non, j'en ai cherché partout. Je vais me faire de la même depuis 6 semaines.
Oh.
Dès le moment de l'apparition de la première machine, il fut évident pour tous les gens qui réfléchissaient que la nécessité du travail de l'homme, et en conséquence, dans une grande mesure, de l'intelligence humaine, avait disparu. Si les machines étaient délibérément employées dans ce but, la faim, le surmenage, la malpropreté, l'ignorance et la maladie pourraient être éliminées après quelques générations. Mais il était aussi évident qu'un accroissement général de la richesse menaçait d'amener la destruction. Était vraiment, en un sens, la destruction d'une société hiérarchisée. Dans un monde dans lequel le nombre d'heures de travail serait court, où chacun aurait suffisamment de nourriture, vivrait dans une maison munie d'une salle de bain et d'un réfrigérateur, posséderait une automobile ou même un aéroplane, la plus évidente et peut-être la plus importante forme d'inégalité aurait déjà disparu. Devenue générale, la richesse ne conférerait plus aucune distinction. Il était possible, sans aucun doute, d'imaginer une société dans laquelle la richesse, dans le sens de possession personnelle et de luxe, serait également distribuée, tandis que le savoir resterait entre les mains d'une petite caste privilégiée. Mais, dans la pratique, une telle société ne pourrait demeurer longtemps stable. Une société hiérarchisée n'était possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Le problème était de faire tourner les roues de l'industrie sans accroître la richesse réelle du monde. Des marchandises devaient être produites, mais non distribuées. En pratique, le seul moyen d'y arriver était de faire continuellement la guerre.
C'est le monde à l'envers, Frédéric Regard, que le monde de 1984. Le problème n'est pas de savoir comment réduire les inégalités, mais comment les réintroduire alors que la richesse est telle que finalement les hiérarchies n'existent plus au sein de la société, ce qui est un problème.
Oui, c'est ça. Les deux extraits que nous venons d'entendre illustrent bien le propos. Sur le premier extrait, qui est sans doute...
C'est un extrait du film, de Michael Radford.
C'est ça.
De 84,
qui est assez réussi, 1984. On entend bien que ce qui se passe, le rationnement du chocolat, la pénurie de lames de rasoir, etc., décrit un monde qui est celui que connaît Orwell dans l'immédiate après-guerre. Donc, quand vous dites monde inversé, vous avez entièrement raison. 1984, c'est aussi 1948. Il est assez connu que Orwell, pour trouver son titre, a simplement interverti les chiffres. 48 a donné 84.
Il l'a écrit en 48.
Il l'a publié en 48. Il commence à l'écrire en 1946-47, à un moment où il est malade, où il se sait condamné, où il s'exile sur une petite île des Hébrides qui s'appelle Jura. Et le texte porte les marques de cet homme, de cet écrivain qui est en train de mourir, qui est en train de faire l'expérience de l'abjection du corps, qui est en train de faire l'expérience également de l'abandon de tous. Donc l'extrait qu'on a eu dit bien aussi ce réalisme. Et en même temps, Orwell est quelqu'un qui essaye d'imaginer, par la fiction, par la grâce de la fiction, par des effets de fiction, comment ce qui se dessine déjà en 1948 peut donner un jour naissance au cauchemar de la modernité, cette modernité où il n'y a plus d'inégalité, mais où il n'y a absolument aucune égalité. Et c'est le terme d'uniformisation que vous utilisiez tout à l'heure et que l'on retrouve en effet dans le deuxième extrait.
Effectivement, l'uniformité, puisque dans le cadre de cette semaine sur l'inégalité, on avait choisi de parler de ce roman pour essayer de voir en quel sens finalement l'inégalité, dans le cadre, en tout cas dans 1984, est un moyen, donc on l'a dit, qu'a le gouvernement de réintroduire une forme de hiérarchie au sein de la société pour mieux avoir le contrôle. Et en même temps, cette hiérarchie qu'il réintroduit n'a pas pour corollaire une forme de singularité. Les gens se ressemblent tous, l'uniformité est souhaitée, car le pouvoir peut mieux s'installer. Et en réalité, c'est peut-être ça aussi l'angle, le cœur de ce livre. C'est l'exercice du pouvoir pour le simple plaisir, désir d'avoir le pouvoir. Et ça, c'est assez rare d'assumer autant cette position de pouvoir.
Voilà, alors, on entendait dans le deuxième extrait quelque chose qui se trouve effectivement chez Orwell, une espèce d'analyse psychique du fonctionnement de la société entièrement tournée vers la dépense, c'est-à-dire vers la guerre, de manière à ce qu'il n'y ait plus assez de richesses pour la répartir au sein de la population. Le but de cette oligarchie, comme la nomme le roman, qui est incarné certes par le personnage satanique principal O'Brien, mais qui n'a pas autrement de véritable visage. Il n'y a pas des membres de l'oligarchie qui soient clairement identifiés. Le but de cette oligarchie, c'est d'organiser en permanence la pénurie de manière à asseoir son pouvoir. Il n'en demeure pas moins que la société de 1984 comporte trois classes. La classe de semi-esclaves, qui sont le prolétariat, the proles, comme il il le dit en anglais, la classe des organisateurs, des techniciens, qui est incarnée par le personnage principal, Winston Smith, et la classe privilégiée de l'oligarchie, incarnée par O'Brien. Mais le principe même de l'oligarchie, c'est d'organiser cette uniformisation de telle manière que la question de l'égalité ou l'inégalité ne se pose plus. Et l'uniformisation, ce n'est certainement pas l'inégalité, mais ce n'est pas non plus l'égalité, si du moins on entend par égalité la possibilité accordée à chacun d'être admissible à des dignités ou à de la valeur. Et c'est cette aspiration à la dignité et à la valeur de tout en chacun et partout qui est incarnée par le personnage principal d'Orwell. C'est le génie d'Orwell à ce moment-là de dessiner une réalité cauchemardesque, et à l'intérieur de cette réalité cauchemardesque, de mettre en scène un petit personnage, et le premier extrait que vous avez lu était excellent à cet égard, un petit personnage malingre, chétif, malade, qui est donc une version fictionnelle, fictionnalisée d'Orwell, qui lui va mettre en crise cette machine étatique, cette machine, cette méga-machine, comme on dit certains philosophes, qui est la machine du totalitarisme, des fascismes, que ces fascismes ou totalitarismes se nomment nazisme ou communisme, puisque Orwell a les deux en tête au moment où il écrit 1984, n'a finalement que très peu d'importance, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'œuvre d'Orwell et dans l'histoire de la pensée politique et philosophique d'Orwell.
La façon qu'a trouvé Winston Smith d'être transgressif et finalement de se rebeller contre ce système est celle de tenir un journal. Et pourquoi est-ce transgressif ? Eh bien parce que dans le monde dans lequel il vit, les sentiments sont bannis, le passé est banni, la mémoire doit être effacée, on réécrit sans cesse, on y reviendra, ces traces du passé que l'on ne cesse de détruire. Et Winston Smith, le roman commence ainsi, va décider d'écrire un journal et de tenir compte de ce qu'il n'a pas droit de citer dans l'univers dans lequel il vit, à savoir ses sentiments. Écoutez.
Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Pour l'avenir ? Pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Il avait devant lui la perspective non de la mort, mais l'anéantissement. Son journal serait réduit en cendres et lui-même en vapeur. Seule la police de la pensée lirait ce qu'il aurait écrit avant de l'effacer de l'existence et de la mémoire. Comment pourrait-on faire appel au futur alors que pas une trace, pas même un mot anonyme griffonné sur un bout de papier ne pouvait matériellement survivre ? Le télécran sonna 14 heures. Curieusement, le carillon de l'heure parut lui communiquer un courage nouveau. C'était un fantôme solitaire qui exprimait une vérité que personne n'entendrait jamais, mais aussi longtemps qu'il l'exprimerait, la continuité, par quelque obscur processus, ne serait pas brisée. Ce n'était pas en se faisant entendre, mais en conservant son équilibre que l'on portait plus loin l'héritage humain. Winston retourna à sa table, trempa sa plume et écrivit. Au futur ou au passé, au temps où la pensée est libre, où les hommes sont dissemblables mais ne sont pas solitaires, au temps où la vérité existe, où ce qui est fait ne peut être défait, de l'âge de l'uniformité, de l'âge de la solitude, de l'âge de Big Brother, de l'âge de la double pensée. Salut.
Le lecteur attentif aura décelé au sein de ce texte, Frédéric Regard, comme une annonce de la fin, puisqu'il est d'emblée question de mort et d'anéantissement, comme si Winston Smith savait lui-même qu'il était contraint finalement à la mort de par son acte dissident qui est de tenir un journal. Et ce qui est très émouvant dans ce passage, on entend les premiers mots qu'il écrit sur son journal, enfin ces phrases-là, c'est que cela fait écho au reste du livre, où il est d'abord et surtout question de la langue. La langue est fabriquée en Océania, le pays où il vit. Il y a cette utilisation de la langue, du novlangue, le terme est resté dans le vocabulaire aujourd'hui, qui est l'outil principal de domination du pouvoir.
Oui, c'est ça. Alors c'est un des plus beaux passages du livre, hein, le salut à l'avenir, au passé et à l'avenir. Passage qui, moi, m'a ému lorsque j'avais 20 ans, et je dois le confesser, quelques décennies plus tard, continue de m'émouvoir particulièrement, d'autant plus qu'il était magnifiquement lu par le comédien.
Par Georges Class, oui.
Ouais. Et c'est la question fondamentale qui occupe le héros, et qui occupe Orwell toute sa vie. Il faut se souvenir que lorsqu'il revient de la guerre d'Espagne, où il fait l'expérience de la trahison, où il a soudain la conscience de ce que vont impliquer les grandes luttes entre le communisme d'autre part et le fascisme, ce qui se joue sur le sol catalan à l'époque. Il est au milieu des combats. Orwell revient de cette expérience en ayant une seule certitude, c'est que le combat qui devra être mené à l'avenir est celui de la culture. La culture qui est entièrement phagocytée par le pouvoir, qui est entièrement phagocytée par l'idéologie, qui fait en sorte que les êtres humains, les êtres individuels, ne puissent plus s'exprimer par eux-mêmes, ne puissent plus avoir d'émotions authentiques. Ce pouvoir donc qui parle les individus au lieu de les laisser parler, et ce qui va déterminer le héros à entrer en rébellion. Et vous disiez que ce qui constitue l'événement marquant du début du livre, c'est effectivement la décision pour Winston Smith, le héros, de se détourner du télécran qui voit tout, du regard, j'allais dire paternel, mais non, qui est fraternel, puisque c'est Big Brother, le grand frère, du regard fraternel d'O'Brien, pour essayer de devenir lui-même producteur de signes, c'est-à-dire d'entamer un rapport à lui-même qui est interdit dans ce cauchemar, qui est un cauchemar culturel.
C'est ça, le regard du télécran, en fait, a pour fonction de se substituer au regard que l'homme peut avoir sur lui-même.
Voilà, c'est ça. Et donc, ce que fait Winston dans cet événement où il décide de prendre la plume pour tenir un journal intime, c'est pas uniquement qu'il se situe dans une espèce de couloir, de corridor humanitaire entre le passé et l'avenir, celui de tous les écrivains, et il se situe dans ce cas-là de manière explicite dans le roman, dans la lignée de la grande littérature anglaise. C'est aussi plus simplement une question de genre d'écriture, de genre littéraire. Le journal intime, le journal littéraire, c'est aussi ce médium dans lequel on peut enfin dire « je » au lieu d'être parlé par la machine totalitaire. C'est le moment où l'individu accède à cette dignité de producteur de signes qui lui est déniée par le pouvoir en place.
De producteur de signes et de sens, et d'un sens non seulement intime, on l'a dit, mais surtout qui pourrait, si possible, ne pas être détruit. Il insiste dans les phrases qu'il écrit, il dit non seulement au temps où la vérité existe, alors qu'il travaille au ministère de la vérité, qui n'a de vérité que le nom, puisque tout est transformé dans ce pays, et où ce qui est fait ne peut être défait. Il y a cette volonté, y compris chez Orwell lui-même, de pouvoir enregistrer, de pouvoir garder trace de quelque chose sans que tout soit détruit par les machines et par le gouvernement.
Voilà, c'est un des grands paradoxes et une des grandes beautés de ce livre, encore aujourd'hui, que d'avoir imaginé un monde où il n'est où c'est la question même du réalisme qui est posée, c'est-à-dire le pouvoir, la machine totalitaire a tellement pris en main la représentation de la réalité que la question même du réalisme devient impossible. Et c'est la question du réalisme qui est posée par le héros, donc ce scripteur de signes, c'est quelqu'un qui aspire à cette dignité de producteur de signes. Et l'une de ses ambitions majeures, c'est effectivement de renouer avec la vérité, de renouer avec des faits incontestables qui ne cessent, eux, dans la machine totalitaire, d'être contestés, d'être réécrits. Tout est toujours déjà écrit. Et vous disiez fort justement tout à l'heure que dès le départ, on sent, le lecteur sent confusément que la mort du héros est déjà inscrite dès les premiers mots. C'est donc un sentiment tragique que ressent le lecteur. Mais oui, en effet, au fur et à mesure que le roman se déroulera, le lecteur comprendra, par un effet de mémoire visuelle, de mémoire auditive, que tout ce qu'il entend dans la bouche du héros a déjà été plus ou moins prononcé à un moment ou à un autre, comme si l'histoire du héros, comme si l'intrigue avait déjà été écrite par le pouvoir totalitaire, qui donc modifie le langage, manipule le langage par différentes techniques sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez tout à l'heure, mais qui a aussi pour fantasme ultime d'écrire la vie des gens au lieu de laisser la possibilité aux gens d'écrire leur propre vie.
D'où la puissance inouïe qu'Orwell investit, dont Orwell investit la littérature justement.
C'est la fiction qui va, c'est la fiction qui va permettre d'imaginer cette satire politique dans une grande tradition anglaise qui est celle de Swift et qui est une tradition internationale, hein, Jack London, Zamyatin, Huxley, etc. Mais ce qui fait la singularité d'Orwell, c'est qu'il met au centre du questionnement de la liberté, de l'égalité des individus, celle de la littérature. C'est la littérature qui permet de survivre, c'est la littérature qui permet d'entrer en rébellion, c'est la littérature qui permet de se défaire des méandres de l'abstraction, de la langue de bois, de ce newspeak, de cette novlangue dont vous nous avez parlé dès le départ.
La 11e édition est l'édition définitive. Nous donnons aux novlangues sa forme finale, celle qu'il aura quand personne ne parlera plus une autre langue. Quand nous aurons terminé, les gens comme vous devront le réapprendre entièrement. Vous croyez, n'est-ce pas, que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux ? Pas du tout. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. La 11e édition ne renfermera pas un seul mot qui puisse vieillir avant l'année 2050. C'est une belle chose, la destruction des mots. Naturellement, c'est dans les verbes et les adjectifs qu'il y a le plus de déchets, mais il y a des centaines de noms dont on peut aussi se débarrasser. Pas seulement les synonymes, hein, il y a aussi les antonymes. Après tout, quelle raison d'exister y a-t-il pour un mot qui n'est que le contraire d'un autre ? Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Prenez « bon », par exemple. Si vous avez un mot comme « bon », quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme « mauvais » ? Un « bon » fera tout aussi bien, mieux même, parce qu'il est l'exact opposé de « bon ». Ce n'est pas un autre mot. Et si l'on désire un mot plus fort que « bon », quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles comme « excellence »,« splendide » et tout le reste ? « Plus bon » englobe le sens de tous ces mots. Et si l'on veut un mot encore plus fort, il y a « double plus bon ». Naturellement, nous employons déjà ces formes, mais dans la version définitive du novlangue, il n'y aura plus rien d'autre. En résumé, la notion complète du bon et du mauvais sera couverte par 6 mots seulement. En réalité, un seul mot. Voyez-vous, Winston, l'originalité de cela ? Naturellement, l'idée vient de Big Brother. Regarde cette dénonciation de la fonction uniformisatrice du langage par Orwell donne lieu à des pages brillantes au sein du roman, et je pense notamment au personnage dont Winston Smith va tomber amoureux, Julia, qui travaille elle dans le centre des romans et qui montre qu'il y a finalement que 6 scénarios possibles, 6 intrigues possibles, et que quand on écrit des romans, il suffit d'agencer différemment ces certains mots de vocabulaire qui sont déjà donnés à l'avance. Comment expliquer, disons, l'origine de cette violence faite au langage pour Orwell? Est-ce à remettre sur le compte d'une modernité où la machine ayant remplacé l'homme, alors il n'y a plus de place pour l'humanité, ni plus de place pour les sentiments? Ou bien est-ce la faute au pouvoir totalitaire? Parce que ce sont deux aspects différents qu'Orwell unit au sein du texte. Quelle est selon lui la cause principale de cet état de fait ?
Il faut replacer 1984 dans le contexte. Comme je le disais tout à l'heure, il est écrit juste dans l'immédiate après-guerre. Et il faut revenir à l'expérience de la guerre civile espagnole, où Orwell découvre des posters des communistes, des posters des anarchistes, où on fait dire à une même réalité des sens différents. On prête à une même réalité, à une même photographie, à un même dessin, des sens différents. Il suffit que le texte change pour que la signification de l'affiche soit profondément modifiée. Ce qui constitue un traumatisme pour Orwell, lui qui est un amoureux de la précision du langage, qui est un amoureux de la nuance, de ce qu'il va nommer le chatoiement de la langue. À quoi il faut ajouter à cette époque, partout en Europe, mais en Angleterre en particulier, mais aussi en France, et Orwell, par des liens familiaux, est parfaitement informé de ces tentatives, on essaye d'imaginer une langue universelle. Évidemment, tout le monde connaît l'espéranto. Ce que l'on sait dans l'espéranto, qui a été conçu par le compagnon d'une tante d'Orwell qui vivait à Paris à l'époque. Ce que l'on sait un petit peu moins, c'est qu'à la même époque, un certain Ogden, qui est un linguiste anglais, imagine une sorte de basic English, d'anglais de base, qui terrorise les écrivains. Et c'est dans cet anglais de base que Orwell va trouver l'inspiration de ce newspeak, de ce nouveau langage, dont le principe, vous venez de le dire, est assez simple. Il s'agit de supprimer toutes les différences, il s'agit de supprimer toutes les nuances, il s'agit de supprimer toute précision, il s'agit de prédéterminer le langage, de le préfabriquer comme un poulailler, dit d'ailleurs Orwell. Et il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que cette question linguistique, que cette partie de philosophie linguistique qui est partie prenante dans le roman, soit un appendice très important. C'est le fameux appendice sur la nouvelle langue qui est accolé au roman, qui vient après le roman, mais qui en réalité fait partie du roman. Il ne faut pas s'étonner si Orwell, alors même que les éditeurs ont toujours voulu supprimer ces passages assez rébarbatifs sur la rénovation de la langue, sur la standardisation de la langue, s'est toujours fermement opposé à la suppression de tels passages. Parce que pour lui, la question fondamentale, encore une fois, elle est linguistique et plus largement culturelle. La culture de notre modernité est une culture de l'uniformisation, est une culture de la standardisation dans laquelle il n'est plus possible de penser de manière singulière, il n'est plus possible de nommer les choses, il n'est plus possible d'enregistrer les choses, d'archiver la réalité et donc par la même occasion de penser la place de l'homme dans le monde et bien évidemment dans le temps.
Mais je vous repose la question différemment parce que il me semble que c'est quand même crucial pour comprendre la portée de ce texte qu'on cite beaucoup aujourd'hui comme étant le paradigme de la société, du cauchemar dans lequel nous ne voudrions pas vivre. Le problème est-il la modernité presque en général, à savoir l'accroissement du recours aux machines qui viennent se substituer à l'être humain, et donc ensuite l'impossibilité d'écrire ou de ressentir par soi-même, ou bien, parce que ce sont vraiment deux choses différentes et même de contextes différents, le pouvoir totalitaire que veut dénoncer Orwell. L'un n'implique pas forcément l'autre.
Oui, alors c'est moins la machine chez Orwell qui constitue le cauchemar que les techniques de communication modernes. Ce qui le terrifie, ce sont les techniques de communication dont il voit les prémices
en 48 quand même, donc après la Seconde Guerre mondiale.
En 48, oui, et qu'il voit se dessiner aussi par la diffusion de certains moyens de communication médiatiques, la télévision, la radio, il ne cesse de parler de ça, qui pour lui sont des véhicules de l'idéologie dominante, qui sont des véhicules de la culture dominante, qui sont des véhicules de la culture hégémonique, et ce que lui permet de faire la fiction. Alors, on en a la caricature avec le travail de Julia, qui imagine une culture qui pourrait se réduire en gros à 6 scénarii, mais c'est l'ensemble de la culture qui est ainsi produite de manière industrielle ou machinée, machinique, comme vous voudriez le dire. La pornographie est produite de manière industrielle, les romans sont produits de manière industrielle, les émissions, le cinéma, tous les pans de la culture de l'époque sont évoqués par Orwell et font l'objet d'un traitement machiné, d'un traitement machinique, de manière à prédéterminer la pensée et les réactions des spectateurs ou des auditeurs. Et ce qui va constituer le nœud de l'intrigue, c'est ce moment où le héros, Winston Smith, va rencontrer Julia, donc l'héroïne du roman, qui va devenir son amante, et où tous deux vont se rendre compte que l'histoire qu'ils dessinent, l'histoire qu'ils nouent, cette histoire d'amour, qui est aussi une histoire sensuelle, une histoire érotique, est précisément ce qui leur permet d'échapper aux intrigues prédéterminées, aux intrigues préfabriquées.
Aimes-tu l'amour ? Je ne veux pas parler simplement de moi, je veux dire l'acte lui-même. Oh, j'adore cela. C'était par-dessus tout ce qu'il désirait entendre. Pas simplement l'amour qui s'adresse à une seule personne, mais l'instinct animal, le désir simple et indifférencié. Là était la force qui mettrait le parti en pièces. Il la pressa sur l'herbe, parmi les jacinthes tombées. Cette fois, il n'y eut aucune difficulté. Le souffle qui gonflait et abaissait leur poitrine ralentit son rythme et reprit sa cadence normale. Ils se séparèrent dans une sorte d'agréable impuissance. Le soleil semblait être devenu plus chaud. Ils avaient tous deux sommeil. Il chercha la combinaison mise de côté et l'étendit en partie sur elle, et presque immédiatement ils s'endormirent. Ils dormirent environ une demi-heure.
It's not so much staying alive. Staying human is important. What counts is that we don't betray each other.
Le but n'est pas tant de rester en vie. C'est rester humain qui est important. Ce qui compte, c'est de ne pas se trahir mutuellement.
Si tu veux parler des aveux, on est obligé de les faire. Et tout le monde cède. C'est inévitable.
Je ne parle pas des aveux. Avouer n'est pas trahir. Je parle des sentiments. S'ils obtenaient de moi que je change de sentiment, que je cesse de t'aimer, là serait la vraie trahison.
Ça, ils ne peuvent pas. C'est la seule chose qui leur échappe. Ils te torturent, oui. Ils te font dire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas te le faire croire. Ils n'arrivent pas à entrer en toi, à pénétrer ton cœur.
When the orgasm has been finally eradicated, the last remaining obstacle to the psychological acceptance of the principles of Ingsoc, as applied to Artsem, will be overcome. In other words, the unorthodox tendencies towards own life, which constantly threaten the natural erosion of the family unit, will no longer have the biological support of the organism.
Lorsque l'orgasme sera enfin éradiqué, le dernier obstacle qui s'opposait à l'acceptation psychologique des principes de l'Angsoc dans le processus de l'Artsem sera surmonté. En d'autres termes, la tendance non orthodoxe à vivre repliée sur soi, qui constitue une menace constante à l'érosion de la cellule familiale, n'aura plus l'appui biologique de l'organisme. Nous le savons tous, la stimulation sociale et biologique de la famille conduit à une réflexion personnelle extérieure aux besoins du parti et à l'établissement de fidélités non orthodoxes qui ne peuvent que mener au crime par la pensée. Par l'introduction de l'artsem, insémination artificielle associée à la neutralisation de l'orgasme, la famille deviendra périmée au point de devenir impossible à conceptualiser. Merci.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h34, c'est le troisième temps de notre série consacrée à l'inégalité. Après Patrick Savidan lundi et le Marquis de Sade hier, c'est aujourd'hui Frédéric Regard qui vient vous proposer sa lecture de 1984 de George Orwell. Frédéric Regard, à qui l'on doit notamment un excellent commentaire de 1984, disponible en Foliothèque. Crime de Eurythmics, et la chanson porte bien son nom, c'est non seulement la bande originale du film de Radford, on a diffusé un extrait, mais aussi parce qu'effectivement, pour Winston et Julia, le sexe est un crime et ils se cachent pour consommer. J'ai lu un petit extrait de genre, la première fois où ils vont faire l'amour, ils pensent être cachés, ils ne le sont pas tant que ça, on le verra. Mais ce qui est très important ici, c'est de voir que l'orgasme, c'est ainsi que c'était présenté dans l'extrait de film, hein, doit être banni pour la simple raison que l'orgasme est une manière de se replier sur soi et surtout va pouvoir donner lieu, enfin l'acte sexuel va pouvoir donner lieu à un engendrement, donc à une famille, ce qui est l'ennemi numéro un du gouvernement. S'il y a des familles, alors les individus vont se détourner de cette force suprême qu'est l'œil qui les regarde, Frédéric Regard.
Oui, c'est ça, et à quoi il faut ajouter également la dépense d'énergie inutile, en pure perte, qui est, par exemple, on parlait de Sade, qui est la définition de la perversion, mais c'est ce que redoute par-dessus tout la machine totalitaire, en effet, non seulement cette déperdition en pure perte de l'énergie, mais aussi cette possibilité que des liens indéfectibles, que des liens concrets, matériels, plus forts que l'idéologie, se nouent entre les êtres humains, ce que permet le rapport amoureux. Mais je reviens à ce que vous disiez également, ce qui se joue dans l'orgasme, ce qui se joue dans la relation amoureuse, ce qui se joue plus exactement dans le rapport amoureux, c'est cette idée qu'il y a des réalités concrètes, matérielles, que George Orwell, de manière générale, dans l'ensemble de son œuvre, nomme le ressenti, la sensation.
Feeling,
le feeling. Mmh. C'est pratiquement impossible à traduire, parce que ça veut dire à la fois l'intuition, le senti, le ressenti.
Mais plus que le sentiment.
Le sentiment. C'est aussi le sentiment. C'est aussi le sentiment, mais beaucoup plus que le sentiment. Ça connote également vraiment le ressenti d'une vraie matérialité dans un monde totalement dématérialisé, complètement égaré dans les représentations médiatiques. La relation amoureuse, le rapport amoureux redevient le gage d'une relation authentique au monde, mais aussi entre les êtres humains, c'est-à-dire que ça réintroduit de la différence entre les êtres humains. On a beaucoup dit que Orwell était avait un discours machiste, phallocratique, et que ces personnages féminins étaient l'incarnation même de cet a priori machiste. Moi, je serais beaucoup plus prudent. Certes, Julia n'est jamais qu'un corps.
Oui, il est dit d'emblée qu'elle n'est pas très intelligente.
Voilà,
en tout
elle
n'est
pas très intelligente, n'est jamais qu'un corps. Et on parlait de la fin qui est tragique, puisque ce lien indéfectible finalement n'est pas indéfectible, puisqu'il finit. Je ne voudrais pas dévoiler la fin
on
peut en dire deux mots. La seule chose qu'ils peuvent se promettre, c'est de jamais se trahir. Et évidemment, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Et c'est Winston qui va trahir la femme, qui va la jeter en pâture à la machine totalitaire. Et quand je dis en pâture, c'est qu'elle va devenir, enfin il va proposer qu'elle devienne effectivement de la nourriture pour rats.
Il faut quand même dire qu'il fait l'objet de tortures absolument atroces, qui sont décrites pendant de nombreuses pages. Son corps se décompose littéralement, il devient tout gris, couvert de cicatrices, et il doit affronter son cauchemar suprême que sont les rats.
Que sont les rats.
Et c'était au terme de cette succession de supplices qu'il va finalement balancer de Julia.
Oui, ce roman comporte de magnifiques passages comme comme ceux que vous avez lus, hein, la première scène d'amour dans cette espèce de petite enclave pastorale. C'est aussi le moment du salut du scripteur, de l'écrivain, et c'est aussi des moments véritablement cauchemardesques où les pires phobies sont mises en scène, puisque Winston a une horreur des rats, et c'est à l'aide de rats qu'on le torture. Je ne vais pas dévoiler la nature de la torture exactement, pour laisser
aux auditeurs
le plaisir de l'effroi jusqu'au dernier moment. Mais en effet, il est condamné, il est amené à trahir sa bien-aimée. Il ne faudrait pas, malgré tout, laisser rester sur l'impression que ce livre est une tragédie et que c'est ainsi que triomphent tous les systèmes totalitaires. Je disais tout à l'heure que l'appendice sur la novlangue, l'appendice sur le newspeak faisait partie intégrante du roman, en dépit de son côté un petit peu professoral, un petit peu intellectuel, mais il faut aller au bout et au moins noter dès les premières lignes de cet appendice qu'il est écrit au passé, comme si, en effet, le système totalitaire n'avait pas finalement vaincu et que l'épisode de la trahison de Julia n'était jamais finalement qu'un épisode dans une longue lutte qui est menée contre le système totalitaire, les systèmes totalitaires en règle générale. Et encore une fois, ça a valu assez de contestations à Orwell pour qu'on le souligne. J'aimerais rappeler que par système totalitaire, Orwell entend aussi bien celui mis en place par Hitler, que celui mis en place par Staline, aussi bien le nazisme que le stalinisme.
I remember what.
Le parti recherche le pouvoir pour le pouvoir, exclusivement pour le pouvoir. Le bien des autres ne l'intéresse pas. Il ne recherche ni la richesse, ni le luxe, ni une longue vie, ni le bonheur. Il ne recherche que le pouvoir, le pur pouvoir. Ce que signifie pouvoir pur, vous le comprendrez tout de suite. Nous différons de toutes les oligarchies du passé en ce que nous savons ce que nous voulons. Toutes les autres, même celles qui nous ressemblent, étaient des poltronnes et des hypocrites. Les nazis germains et les communistes russes se rapprochent beaucoup de nous par leur méthode, mais ils n'eurent jamais le courage de reconnaître leurs propres motifs. Ils prétendaient, peut-être même le croyaient-ils, ne s'être emparés du pouvoir qu'à contre-cœur, et seulement pour une durée limitée, et que passé le point critique, il y aurait tout de suite un paradis où les hommes seraient libres et égaux. Nous ne sommes pas ainsi. Nous savons que jamais personne ne s'empare du pouvoir avec l'intention d'y renoncer. Le pouvoir n'est pas un moyen, il est une fin. On n'établit pas une dictature pour sauvegarder une révolution. On fait une révolution pour établir une dictature. La persécution a pour objet la persécution. La torture a pour objet la torture. Le pouvoir a pour objet le pouvoir. Commencez-vous maintenant à me comprendre ?
I remember what the internet was like before it was being watched, and there's never been anything in the history of man that's like it. I mean, you could, again, have children from one part of the world having an equal discussion where, you know, they were sort of granted the same respect for their ideas in conversation with experts in a field from another part of the world on any topic, anywhere, anytime, all the time. And it was free and unrestrained, and we've seen the chilling of that and the cooling of that and the changing of that model towards something in which people self-police their own views, and they literally make jokes about ending up on the list if they donate to a political cause or if they say something in a discussion. And it's become an expectation that we're being watched.
Ce texte glaçant d'Orwell, Frédéric Regard, dont je viens de lire un extrait, hein, sur le pouvoir, le pur pouvoir, où même les nazis, les communistes russes n'arrivent pas à la cheville de cette volonté de pouvoir absolu qui écraserait tout le monde. Dans quelle mesure est-il encore pertinent ou peut-il encore avoir un écho aujourd'hui dans un contexte, en tout cas occidental, non totalitariste, C'est la raison pour laquelle j'ai décidé qu'on entende la voix d'Edward Snowden, hein, qu'on vient d'entendre, qui dénonce la façon finalement le réseau même d'Internet d'être devenu un régime de surveillance généralisée. On parle beaucoup aujourd'hui de Big Brother, on dit que nous vivons dans cette société, nous sommes surveillés en permanence. Il y a quand même une différence entre l'époque où écrit Orwell, le contexte qui est celui du roman, et celui qui est décrit dans le roman, comme ce texte sur le pur pouvoir, et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors est-ce qu'on en fait trop quand on établit cette comparaison ?
À mon avis, non. Et je pense que la littérature, notamment quand elle se conçoit comme une dystopie ou comme de la science-fiction, généralement préfigure le monde dans lequel nous vivrons un jour ou l'autre. C'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant et surtout garder la littérature au cœur de nos préoccupations culturelles. Ce qui m'apparaît en écoutant ces extraits et notamment l'entretien de Snowden...
C'était un extrait du documentaire de
J'ai compris. C'est que Orwell est quelqu'un qui se signale dans l'histoire de la littérature anglaise comme quelqu'un qui pense. Et quand je dis quelqu'un qui pense, c'est-à-dire qu'il se conçoit comme philosophe politique, il se conçoit comme penseur, comme linguiste, il se conçoit... comme penseur moral, etc., etc. Et sa littérature pense, et c'est rare. C'est-à-dire que si ce livre reste aujourd'hui parmi nous comme un livre de chevet, comme un livre indépassable et qui continue de fasciner des générations de lycéens, d'étudiants et de lecteurs plus confirmés, c'est parce qu'il dit quelque chose qui est pensé. Et que la littérature met en forme quelque chose qui est encore de l'ordre de l'impensé en 1948, mais qui arrive déjà à le penser, ce qui produit chez nous aujourd'hui, un effet de reconnaissance, a posteriori, bien évidemment, mais on se dit, mais oui, bien sûr, c'était déjà dans Orwell. Donc Orwell a raison dès le départ, et ce que nous vivons aujourd'hui le confirme, non pas parce qu'il imagine quelque chose qui est fantaisiste, non pas parce qu'il fait ce qu'on appelle de manière souvent un petit peu péjorative de la science-fiction, c'est parce que la dystopie pense, la littérature pense déjà les prolongements probables de ce qui se jouera un jour ou l'autre. Ce qui veut dire simplement ceci, c'est que la littérature produit des effets sur le lecteur qui sont aussi des effets libérateurs. Lire Orwell, c'est aussi se donner les moyens de comprendre ce qui se joue aujourd'hui, notamment dans ce désir de contrôle, de transparence effrénée que l'on reconnaît pas uniquement dans l'organisation militaire paranoïaque de nos États, mais qui se reconnaît partout dans la gestion de nos affaires, dans l'université, dans les administrations, où il y a une espèce de contrôle tatillon d'idéologie de la transparence absolument effrayante, qui moi me fait beaucoup penser à un livre que Orwell aurait pu lire et qu'il aurait aimé, c'était Homo Sovieticus. On y est. Et le pouvoir dire qu'on y est, c'est aussi avoir lu Orwell. C'est Orwell qui nous permet de le penser. Voilà.
Mais la différence étant quand même que dans le roman, les choses sont extrêmement centralisées. Il y a un homme derrière tout ça, un regard derrière tout ça. L'époque dans laquelle nous vivons, qui est certes une ère de la transparence et de la surveillance, est quand même beaucoup plus diffractée, y compris Internet. C'est-à-dire on peut être sans arrêt être surveillé, mais pas par une seule personne. C'est quand même une différence avec le totalitarisme.
C'est vrai, vous avez raison. Mais ce que Orwell, et c'était le sens de votre lecture, ce que Orwell commence à comprendre, et c'est pour ça que je disais que c'était aussi un penseur du politique. Il fait de la linguistique, il fait de la politique, il fait de la morale, mais il fait aussi là de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il comprend quelque chose qui... alors, on ne sait pas s'il a lu Freud ou non, mais ça rejoint énormément
d'analyses. On y pense beaucoup en lisant
Freud.
Le roman.
On le lit beaucoup. Ou Reich. On hésite beaucoup entre Freud et Reich, et peu importe en réalité. Ce qu'il comprend, c'est que le pouvoir, c'est une structure psychique. C'est-à-dire que on ne veut jamais le pouvoir, dit Orwell, on ne veut jamais le pouvoir pour le bien des autres, on ne veut jamais le pouvoir pour installer une révolution, on veut le pouvoir pour le pouvoir, et le résultat est que dans la société de 1984, il n'y a pas en réalité d'inégalité majeure, puisque l'oligarchie en question ne souhaite pas s'enrichir. Ce qui intéresse Orwell, ce n'est pas l'exploitation d'une classe par une autre, l'exploitation des prolétaires par une classe de nantis, de capitalistes, comme il a été question dans toute son œuvre, jusque à l'hommage à la Catalogne. Par exemple, dans son expérience de la Birmanie, il fustige le colonialisme, l'impérialisme anglais. Ce qui tout à coup le fascine, c'est cette possibilité que le pouvoir soit désintéressé. C'est-à-dire le pouvoir n'a pas d'intérêt économique à le tenir ou à le maintenir. Le pouvoir, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Le désir du pouvoir pour le désir du pouvoir.
C'est avec le Big Brother de David Bowie que nous nous quittons. Un grand merci à vous, Frédéric Regard.
C'était un plaisir.
Un plaisir partagé par les auditeurs aussi, j'en suis sûre. Donc, de nous parler de 1984 de George Orwell, je renvoie aux commentaires que vous en avez proposés, disponibles en folio, en foliothèque. Et puis, vous venez de faire paraître Féminisme et prostitution dans l'Angleterre du 19e siècle, La croisade de Joséphine Butler, aux éditions de l'ENS. Enfin, c'était l'an dernier. Je ne connais pas Joséphine Butler, mais.
C'est un véritable personnage de roman.
J'en suis sûre, on le lira. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie.
Égoïste. Où es-tu ? Montre-toi, misérable.
En 1990, on pouvait voir dans une publicité des femmes crier en furie et en cœur, ce qui constitue l'objet du dernier livre du philosophe Dominique Lecourt, L'égoïsme. Avec ce sous-titre accrocheur, faut-il vraiment penser aux autres ? Et oui, faut-il penser aux autres et même faire quelque chose pour eux ? La publicité ne s'y trompait pas, l'égoïste se dérobe au regard et il correspond parfaitement en cela à sa définition. Il ne vit que pour lui-même, isolé, replié, à l'écart du monde extérieur, nécessairement hostile. De cette définition individuelle, on connaît l'extension politique, l'individualisme qu'a dénoncé Tocqueville comme mal démocratique par excellence et qu'on retrouve aujourd'hui presque jusqu'à l'irritation, je dois dire, dans toutes sortes de complaintes et même celle d'un rappeur de 25 ans.
Tout le monde en fout, tout le monde est en guerre, hein, hein. Plus on se rend flou et moins on voit clair. Hein, hein. On se fait chier au taf, on attend les camps va, hein, hein. On se parle derrière un ordi, mais en vrai, quand est-ce qu'on se voit, hein, hein. On verra bien.
Nekfeu, au printemps dernier, nous a bien fait la leçon. Je suis d'une génération égoïste, je suis derrière mon ordinateur, mais je ne parle à personne. Eh bien, on connaît cette chanson, mais heureusement, cet ouvrage ne tombe pas dans ce piège. Il fait plutôt un catalogue, sans y adhérer, de tout ce qu'on accole à l'égoïsme et en profite pour en dégager deux formes. L'égoïsme concurrentiel pour la survie, qu'a dégagé entre autres Darwin, et l'égoïsme indifférent, ce mode de vie qui nous touche donc aujourd'hui et dont le slogan pourrait être « On n'en a rien à foutre de rien » comme Nekfeu le dit si bien en fond mais qu'on n'entend plus. Et donc quel plaisir de lire cet ouvrage, car ici pas de plainte facile sur notre époque, pas de remède facile non plus comme l'amour, même si c'est quand même bien, Dominique Lecourt le dit, mais contre la fausse vertu de l'altruisme qui impose le sacrifice de l'ego, l'idée enfin d'un individualisme révisé avec une base morale, tel que le prône Ayn Rand, philosophe méconnu et que Dominique Lecourt nous donne ici la chance de découvrir.
Merci Géraldine, j'espère qu'à l'inverse de Nekfeu, vous faites pas trop chier au taf.
Non, pas du tout, et j'aime bien voir mes amis mais aussi leur parler derrière un ordinateur.
Bon alors, comment s'appelle le livre dont vous venez de
parler ? L'égoïsme, faut-il vraiment penser aux autres ? C'est de Dominique Lecourt et c'est aux éditions Autrement.
Merci Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à l'inégalité. Demain, ce sera Jean Gaillon qui viendra vous parler du darwinisme et de la loi du plus fort. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et vous pourrez également la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et attendons vos remarques et commentaires. Un dernier mot, je vous signale que commencera demain la 5e édition des Rencontres philosophiques de Langres, qui aura lieu du 1er octobre à 14h au samedi 3 octobre à 12h30. Et le thème choisi cette année est la religion. Toutes les informations sont en ligne sur le site des Nouveaux Chemins.